Monsieur Luc Sirois, bonjour.
Hey, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Ça me fait un grand plaisir.
On est dans un endroit très animé, hein, c'est extraordinaire. Oh. Ici, là, ça commence à rentrer, les visiteurs à la COP, c'est ici, là, le grand rendez-vous de ceux et celles qui veulent innover en éducation.
C'est le salon de l'innovation, mon cher ami Luc.
Yes, sir, monsieur. Écoutez, merci beaucoup de l'accueil. Merci beaucoup à Créativité Québec. Merci, Federico. C'est le fun d'être ici.
Oui.
À parler. De quoi qu'on va parler aujourd'hui?
On va parler d'éducation. On va parler d'innovation. C'est en plein le bon sujet pour toi parce que toi, tu es l'innovateur en chef du Québec.
Ah oui? Mon Dieu. T'aurais dû m'avertir, là. Ça me choque.
Peux-tu me dire, qu'est-ce que c'est ça, l'innovateur en chef?
Ben, écoute, l'innovateur en chef, ça a été nommé par le gouvernement du Québec et pour trouver, justement, des nouvelles façons de développer l'innovation au Québec. Fait que les professeurs, c'est des gens qui sont fondamentalement innovants. Le monde de l'éducation, ça sème le savoir, ça sème les compétences pour demain. Et puis, ben, les questions d'innovation sont bien importantes. Comment semer la capacité d'innover, la capacité d'être créatif, changer des choses, régler, développer des solutions nouvelles à des problèmes importants, ben c'est un peu la mission de l'innovateur en chef.
Fait qu'il y a un beau lien à faire avec l'apprentissage durable.
Ben tu vois, l'innovation, là, je trouve c'est important. Avant d'aller à l'apprentissage durable, l'innovation, c'est important pour créer de la richesse,
okay.
Créer des nouveaux produits, des nouveaux services, que nos entreprises grandissent, se développent et commercialise des nouvelles choses. Donc, il y a de la recherche, il y a de la science, il y a de la technologie qu'on assemble pour créer des nouveaux produits. Mais l'innovation et le développement durable, ça va ensemble. Ça ne peut qu'aller ensemble parce que si on veut créer de la richesse sans utiliser de matières additionnelles, sans utiliser de personnes additionnelles, c'est par l'innovation, par la créativité. Le développement durable, c'est d'être capable de continuer de vivre et de développer le bien-être, mais en utilisant moins de ressources. Et là, l'innovation, c'est la clé.
Wow! Est-ce que, maintenant que tu nous expliques l'innovation, est-ce qu'on peut maintenant faire un parallèle avec l'éducation? Parce que là, ici, on était à la COPS, et la COPS, c'est un congrès qui est d'innovation, oui, mais pour aussi les enseignants. Donc, il y a un paquet d'enseignants qui sont ici là, ce soir et tout pendant 3 jours.
Tu sais, ce qui m'a choqué beaucoup, Frédéric, là, c'est je fais le tour de la province, puis je rencontre les dirigeants, dirigeantes. On a aussi fait une grande enquête sur la pratique de l'innovation au Québec, chez les dirigeants, dirigeantes. Au Québec, par rapport à ailleurs au Canada, par rapport à ailleurs dans le monde. Puis au Québec, ben, on est la province où on fait le moins de projets d'innovation. Par rapport à ailleurs. Et en quelque part, on pose la question, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi moins de projets d'innovation, moins de développement de produits, moins de R&D, moins de transformation, intégration des nouvelles technologies dans les entreprises? Fait quand on pose la question, ben pourquoi? Pourquoi, messieurs, mesdames, les dirigeants, dirigeantes? Ben, et puis il y a une grande question de culture, puis une grande question de savoir-faire. C'est étonnamment pas à cause d'un manque de financement. C'est étonnamment souvent parce qu'on manque de gens pour le faire ou on ignore que ça fait une différence, que c'est important ou on ne sait pas quoi faire. Dans ces 3 points-là, on parle de l'éducation. On parle de l'éducation des dirigeants, des dirigeantes eux-mêmes. Il y a toute une rééducation à faire pour le savoir-faire, pour les compétences à intégrer. Comment être une personne innovante? Organiser son équipe pour être innovant, comment son organisation peut être innovante. Il y a tout un savoir à transmettre. Là, on parle de l'enseignement supérieur, on parle de la formation des dirigeants. Mais si on pense comment ça va se passer dans 5, dans 10, dans 15 ans, bien, la culture de l'innovation, ce savoir-là, cette attitude vers l'action, attitude vers la résolution de problèmes, de développer des solutions, d'agir pour transformer les choses, ça se sème dès le jeune âge. Ça se sème par nos enseignants, ça se sème sur nos bancs d'école, dans nos classes, et c'est ça le lien avec l'éducation. La meilleure façon de faire la révolution de l'innovation pour être une société prospère, une société durable, ben c'est en misant sur l'éducation.
Maintenant, on va aller visiter le côté entrepreneurial de la patente.
Ouais.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les édupreneurs, dans le fond, les intrapreneurs. Qu'est-ce qu'on aurait de place? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme place? On sait qu'il y en a, là, mais y aurait-tu des moyens d'innover pour pousser ça, ces profs-là, à dire oui, ça me tente de devenir un entrepreneur?
Ben là, il y a deux choses importantes à réaliser. C'est, d'abord, on a énormément au sein des professeurs eux-mêmes, dans toute la communauté de l'entrepreneuriat EdTech autour avec l'association EdTech. On a plein d'entrepreneurs qu'on connaît avec les gens comme l'école branchée qui nous fait découvrir des nouvelles solutions. Ici, la COPS qui nous fait découvrir des solutions d'entreprises, hein, ou d'entreprises à vocation sociale ou d'entreprises start-up de technologie, des nouvelles solutions. Il y a les entrepreneurs intrapreneurs, les professeurs eux-mêmes qui ont souvent, il y a beaucoup de professeurs qui ont le désir d'améliorer les choses puis d'intégrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un milieu comme l'éducation et comme l'entreprise, comme tous les secteurs publics également, c'est difficile d'intégrer les innovations quand t'es dans un train en marche.
Oui.
Hein? On a un rendement à produire, on a des choses, il y a un momentum établi, il y a une façon de faire établie. Et ça, c'est normal. Ça a été développé par des années de réflexion sur comment bien faire les choses. Ce qu'il faut arriver à faire pour soutenir l'entrepreneuriat puis soutenir l'innovation dans le milieu de l'éducation comme ailleurs, c'est de se créer des endroits où on peut expérimenter, des endroits où on peut essayer des choses, se les approprier, les tester, les améliorer, itérer. Un endroit où il n'y aura pas de grandes conséquences, un endroit, et c'est parce que sans cette possibilité de faire plusieurs expériences, mais c'est comme dans le domaine de la science, on n'arrivera pas à découvrir la situation, la technologie, la solution appropriée. Donc, une fois qu'on aura créé ça, l'école expérimentale, l'école innovante, un lieu d'expérimentation, un carré de sable, ben je pense que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on va toujours essayer de rentrer des innovations en plein pendant qu'on est en train d'opérer des classes, pendant qu'on est en train d'opérer une école, et ça, ben ça va toujours être un clash à mon avis.
C'est très pertinent, d'autant plus qu'on, tu sais, si on parle d'être innovant, c'est plus difficile, mais disons, pour les enseignants qui sont avec leur routine de travail, métro, boulot, dodo, chercher l'innovation.
Ben oui.
C'est beaucoup plus facile, à mon avis, parce qu'on s'en est parlé tantôt en pré-entrevue, d'aller chercher les enfants en premier et pousser ça davantage, un peu comme je fais le parallèle avec les journées de Normand Maurice, où Normand Maurice, c'est le père de la récupération à Victoriaville, puis il a décidé, ben si les parents ils font pas le travail, mais on va aller chercher les jeunes.
Ouais, les jeunes nous éduquent beaucoup, hein, ouais. Nous poussent à avancer. Ben là, je pense que ça c'est le point original. Si on veut amener l'innovation dans la société, il faut être capable que nos jeunes aient cette mission-là de changer le monde. Puis je pense que c'est un devoir qu'on a de réanimer, de garder cette flamme-là allumée. On a, tu sais, quand j'ai la chance de rencontrer des jeunes, toi t'es au niveau de la sixième année, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement.
Moi j'ai eu la chance de retourner voir mon ami Tania Drolet, mon ami d'enfance avec qui on a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, okay. Qui est professeur de sixième année maintenant. J'ai eu la chance aussi de voir Valérie Saint-Onge qui est professeur au secondaire, puis de rencontrer ses élèves. Mais à l'école Saint-Lucien, la classe de sixième de Madame Drolet, ben c'était extraordinaire de pouvoir rencontrer des jeunes là-bas et qui étaient dans un état d'esprit ouvert à apprendre des choses nouvelles. Puis là, ils voulaient entendre parler d'innovation. Mmh. Alors là, on a fait un exercice de réflexion, de créativité, pour imaginer qu'est-ce que pourrait être l'école de demain. Mais tu vois, déjà rendu, même en sixième année, à 10, 11, peut-être 10, 11 ans, un petit peu 12, déjà là, il y a, déjà ces neurones-là sont figés. Déjà là, on est dans un... Là, je choquais un petit peu.
Cerveau, peut-être, là, où,
Là, il se passait quelque chose. Là, je devais les... Là, il regardait le professeur. Là, il me regardait moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va imaginer l'école de demain. Non, on va s'asseoir. On va dessiner qu'est-ce que ça pourrait être l'école de demain. Tu vois, il y a comme un... Mais par contre, et ça, ce muscle-là, ben il s'atrophie avec le temps. Quand on l'utilise pas, à un moment donné, on rentre dans le moule. Mais pourtant... C'est bien quand on est jeune qu'on doit rester dans l'observation. C'est quand on est jeune où le monde qu'on découvre autour de nous Hein, c'est là qu'on voit les belles choses du monde, c'est là qu'on voit les problèmes du monde, on les voit mieux. Quand tout est nouveau, on le voit toujours mieux. Mais à un moment donné, ben là, ce réflexe-là s'atténue, on prend les choses pour acquis, on croit que c'est comme ça parce que c'est supposé d'être comme ça, que ces problèmes-là vont toujours être là, ils ont toujours été là. Et ça, c'est le drame. Donc, comme professeur, comme éducateur, l'enseignement de ces compétences-là, non seulement de voir les problématiques, mais d'avoir le sentiment qu'on est ceux et celles qui peuvent prendre action, qui peuvent les adresser ou du moins réfléchir à des situations. C'est ça, d'enseigner l'innovation.
Enseigner l'innovation, ça veut dire aussi enseigner le droit à l'erreur.
Ah, tellement, t'as raison, hein. On est, puis ça, c'est bien. Ah, tu sais, on doit désapprendre à tout le monde l'obsession d'avoir tout bon. Tu sais,
oui,
c'est fou, hein, parce que quand on innove, c'est comme une expérience scientifique. C'est sûr qu'elle va échouer. Les probabilités qu'elle échoue, elles sont très grandes dans tous les domaines, tous les développements de nouveaux produits, tous les développements de nouvelles technologies, tous les expériences scientifiques, tous les développements de nouvelles entreprises, tous les développements de nouveaux produits grand public. Donc, on a des milliers d'expériences qui démontrent comment c'est 1 sur 10, 1 sur 20, une expérimentation sur 20. Donc, faut se donner la permission d'en faire 10, 20, dont 9 ou 19 vont échouer. Donc, et si on se donne pas cette permission-là d'avoir fait une tentative qui a échoué, puis d'en apprendre des leçons, d'en tirer des leçons, ben on se met dans une voie qui est justement vouée à l'échec. Quand je rencontre des dirigeants, dirigeantes, puis des fois c'est des gens seniors, hein, qui sont convaincus, ouais, qui disent oui, monsieur Sirois, vous allez voir, on va en faire de l'innovation dans notre municipalité, on va en faire de l'innovation dans, on a un gros projet là, monsieur Sirois. Dans notre entreprise, un gros, gros projet, ça va tout changer. Vous allez voir, je vais aller jusqu'au bout avec ça. Vous allez voir, mais mon Dieu, c'est bien épouvantable. Vous allez échouer. Faites pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, faire un seul gros projet, je veux dire, c'est la recette de l'échec. Parce que les probabilités que votre un seul gros projet réussisse, c'est quoi? C'est un sur 10. Donc, vous allez faire un immense échec épouvantable. Et puis, vous allez jamais vous en remettre. Au mieux, vous allez souffrir puis vous allez pleurer pendant des années. Au pire, vous allez mourir. L'entreprise va échouer. Il faut faire 10 petites expérimentations, voir lesquelles vont être plus prometteuses, celles qui vont échouer, celles qui vont être des cul-de-sac. Mm-hmm. Et puis ça, cette façon expérimentale là, ben c'est pas une façon qu'on a. On se fait enseigner à réussir tout ce qu'on entreprend, y aller à 110%, et puis quand ça va pas bien, on redouble d'efforts. Ben, quelque part, c'est pertinent dans des contextes de projets établis, quand on bâtit des choses qu'on connaît, quand on fait des choses qui sont des sentiers qui ne sont pas battus, hein, quand on construit une maison, hein, quand on fait un pont, hein, on va pas faire des expériences dans ces contextes-là. Mais quand on veut inventer les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés, les nouvelles façons qui n'existent pas, ben le droit à l'erreur est fondamental. C'est même le mot le droit à l'erreur, c'est comme il y a quelque chose de négatif de dire t'as fait une erreur, mais t'as le droit, je te pardonne. Non, c'est même pas ça. C'est un cheminement expérimental où on apprend au fur et à mesure. Hey, je vais te donner un exemple. Y a-t-il un secteur où qu'on connaît que, on le sait que c'est une fois sur 10 que ça va fonctionner?
Ben, ils sont payés dans le coding, non?
Avec les jeunes, là. Dans la vie de tous les jours, y a-t-il un secteur dans la vie de tous les jours qu'on regarde tous les samedis soirs à la soirée du...
OK.
Hey, on tire, hein, combien de ça peut tirer au but pour en rentrer un?
Ben, ça en prend... On sait pas, hein, les gardiens sont plus en plus forts, là. On peut tirer dans l'un dixième aussi, tant qu'à faire?
Ben, si on se fiait simplement aux statistiques, on tirerait jamais. Ouais. Voyons, les probabilités 40, la petite
poque. C'est vrai.
Ben non, voyons donc, c'est bien trop risqué. Pourquoi? On va attendre le bon moment où, là, le gardien va te coucher à terre, puis là, le filet va être désert, puis on va lancer. Mais, dans le sport, on le sait que c'est pas comme ça. On lance, on crée des occasions, la situation change, on apprend les faiblesses, on voit les choses et on sait qu'on doit faire des essais pour être capable de franchir le cap.
Ah, mais c'est très pertinent, surtout que le fait de dire, de donner droit à l'erreur, ça m'est cherché dans un processus créatif, comme mettons, pour pas nommer Créativité Québec, où il va aller chercher, le côté entrepreneurial, les étudiants, il va aller chercher aussi les intrapreneurs, mettre ça dans un contexte un peu plus couvé, tout ce que c'est, être entrepreneur, se donner droit à l'erreur. On est en train tout de renégocier, de rechanger tout le processus d'évaluation. Qu'est-ce qu'un bon élève? Qu'est-ce qu'un mauvais élève? Un élève, je regarde ça il y a quelques années, on disait qu'un élève qui avait 50 % c'était pas un bon élève. On est en train de se rendre compte que c'est différent. Fait que prendre ça, le côté entrepreneur, puis féliciter l'erreur du jeune. Regarde, t'as fait une erreur, maintenant, qu'est-ce que t'as appris de l'erreur? C'est ça qui est important.
Ben oui, puis pour que ça puisse arriver, c'est que faut aussi que la direction embarque. Oui. Parce que une école qui va devenir innovante, c'est sûr que comme professeur qui a le goût d'améliorer les choses, qui a le goût de se dépasser, qui a le goût d'aller à un autre niveau pour le bien de ses élèves, puis d'amener l'éducation dans sa classe à être dans le 21e siècle et puis d'utiliser les innovations, c'est sûr, c'est extraordinaire et c'est ça qui est, ça c'est le bottom-up qu'on appelle en français, là. Mm-hmm. C'est la base qui va pousser l'innovation à partir de la base. Il faut aussi l'avoir top-down. Il faut avoir aussi la direction qui a le goût que son école apprenne à s'améliorer, qui le demande, qui le priorise, qui le valorise, qui le soutient. Et puis quand on a les deux, ah ben là, c'est là qu'on peut faire des choses.
Puis même, on parle beaucoup de silos en éducation, que tout est compartimenté, mathématiques, français, sciences. On dirait que la part de la robotique est en train de changer un paquet de choses. L'enseignement durable aussi est en train de changer un paquet de choses. J'ai un de mes amis, Philippe Longchamp, qui était enseignant de l'année en Suède, qu'on s'est parlé tantôt en pré-entrevue. Lui est en train de se rendre compte... l'enseignement durable qui a toute sa place et enfin un prof va venir faire un tour, mettons un prof de mathématiques va joindre un prof d'histoire pour parler de probabilité ou je pense que comme Créativité Québec, il y a matière à enlever les silos si on veut, puis intégrer les enseignants puis qui se mettent à travailler ensemble pour le jeune, comprendre le jeune, du design thinking, écouter ce qu'il y a à dire.
Ouais, je suis pas un expert dans qu'est-ce qui est les bonnes innovations ou les bonnes choses. Puis okay. Là, t'en nommes sur les silos et tout ça. Ça, je sais pas. Mais faut se donner la chance d'expérimenter puis de mesurer aussi, parce que il y a aussi le danger d'expérimenter, de poursuivre des idées puis sans se donner les mesures pour savoir est-ce que ça améliore vraiment les choses, est-ce que l'aiguille bouge et d'avoir un processus là qui est encadré. La créativité, c'est d'être capable. On pense souvent que les entrepreneurs, c'est des gens qui font qui sont des excessifs de la créativité, qui vont prendre des risques à outrance. Les bons entrepreneurs, non, vont être capables d'être créatifs pour trouver des solutions, ouais. Mais ensuite vont être capables pas de se lancer dans des risques sans fin, mais d'être capable de dire, OK, on va faire des expériences, on va voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on va trouver des solutions, puis trouver le chemin qui mène au succès à la fin. Dans le cas de briser les silos, moi, je vous laisse expérimenter les meilleures solutions.
C'est bon.
Mais je vais te compter, moi, j'ai eu un de mes épiphanies en éducation où j'étais bien ben estomaqué de comment des façons différentes d'enseigner pouvaient faire justement une différence. C'était quand je suis allé à l'université Harvard,
oui,
pour ma maîtrise là-bas. Écoute, c'est la mecque de l'enseignement de la gestion, avec des sommités extraordinaires, des champions experts du monde entier viennent là-bas pour rencontrer les élèves. C'est vraiment, et tu le payes très cher. Là, moi, j'avais ramassé tout ce que j'avais pu de toute la famille qui a pu m'aider, puis de la banque et tout. Puis t'arrives là-bas pour apprendre sur toutes ces belles choses-là de la part d'un expert dans la matière, dans tous les domaines que tu as de tes cours. Et là, c'est là que tu te rends compte que, attends, mais non, les professeurs n'enseignent pas.
Ouais.
Les professeurs n'enseignent pas.
Ouais.
Parce que Ils disent, écoutez, dans la vie, il n'y aura pas de professeur qui va vous donner les réponses. Il va falloir que vous arriviez en classe avec les réponses et que là, vous vous enseignez les uns les autres. Moi, je vais animer la discussion pour être bien certain d'orienter sur les bons points.
Mais un peu comme un mentor.
Ben c'est dans ce cas-là, ça s'appelle l'enseignement par méthode de cas. Ouais. Donc et là t'as intérêt en fait d'absorber. Écoute, t'arrives en classe, t'as lu le cas en question, t'as tout lu ce que t'as pu sur la matière de la journée, t'as travaillé avec tes collègues pour être capable de bien assimiler ça, parce que tu dois ensuite l'expliquer en classe et tu dois l'expliquer à tes pairs, tu dois faire comprendre le tout. Ta note, c'est la moitié, c'est sur ta participation, ta contribution à l'enseignement à l'apprentissage de tes pairs. Et le reste, c'est la qualité de ta contribution. Écoute, alors, là, ça change complètement la dynamique. Et moi, j'ai été complètement bouleversé de ça, d'avoir vécu 1850 études de cas où le professeur nous a plutôt guidés à réfléchir et à aller chercher l'information, le savoir et les conclusions seuls.
Je reçois plein de crochets de gauche depuis tantôt au niveau innovation. Ça m'allume parce que c'est quelque chose que je veux vraiment mettre de l'avant avec mes jeunes. Ça m'interpelle, j'ai envie de faire ça. J'ai déjà commencé, on s'en est parlé, de la résolution de problèmes, comment arriver à innover. Je leur ai donné des bibottes parce que ça dormait avec les premières et les maternelles. Merci. Puis on est arrivé, puis on a décidé de, ben, on va aller jouer les bibottes pour les maternelles. Puis si c'est assez concluant, ben, on va pouvoir aller enseigner. Oui, que ce soit les profs de maternelle, ça va être nos élèves de sixième année qui vont enseigner la robotique.
Il y a quelque chose là-dedans.
Il y a quelque chose, ça m'allume dans ce que tu dis, c'est extraordinaire. Là, je sais que là, il reste pas beaucoup de temps. Ben, je me suis prêté au jeu. OK? On s'en est parlé tantôt. Tu sais, dans l'innovation, il y a une grosse innovation qui s'est faite il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'intelligence artificielle. On va peut-être aller chercher Luc Sirois, le père, Luc Sirois, l'enseignant. Mais on va poser une question. Je vais poser une question à ChatGPT, nommant ce que tu es. Et j'ai demandé, peux-tu me composer une question? Fait que, ça t'entends-tu que je te pose?
Ben vas-y, écoute, moi je suis toujours impressionné de comment ChatGPT... des éléments perspicaces de plus en plus, là. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit?
Ben, il a dit une chose. Il dit, selon Luc Sirois, quelles sont les principales initiatives que le gouvernement du Québec met en place pour favoriser l'innovation dans l'éducation et les préparer les étudiants face aux défis du 21e siècle?
C'est une bonne question.
C'est gros, hein?
C'est une bonne question. T'aurais dû lui poser la question ensuite pour savoir qu'est-ce qu'elle allait te répondre.
Ah, là, je vais faire cet exercice-là la prochaine fois.
Je pense qu'on, ben là, tu vois, le rôle de l'innovateur en chef, c'est dans le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie maintenant, c'est de conseiller le gouvernement sur les politiques à adopter, les programmes, des façons d'améliorer l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. C'est aussi d'aider les entreprises. Donc, moi, mon expertise est de ce côté-là. Ce qui a été fait, par contre, pour embarquer les autres ministères dans une démarche d'innovation...
Ouais.
C'est entre autres le comité interministériel de la recherche et de l'innovation que Rémi Quirion, le scientifique en chef, et moi-même, les deux bras droits qu'on co-anime, co-préside avec le ministère de l'Économie, pour justement amener cette question-là. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Comment est-ce qu'on peut avoir des stratégies d'innovation au sein du ministère de l'Éducation, au sein du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, au sein du ministère des Transports, et puis tu serais surpris de voir, il y a certains ministères qui sont extrêmement orientés justement sur l'innovation, l'amélioration des choses. Puis pour d'autres, ben il y a tout un processus d'éducation à faire. La même façon qu'on disait, faut enseigner aux dirigeants, dirigeantes, qu'est-ce qu'il faut faire, le savoir-faire et la culture. Il y a des ministères pour qui c'est nécessaire, puis on prend ces étapes-là une à la fois. Une des choses qui a été fait, donc en dehors de ce comité-là, c'est on va dans la grande stratégie québécoise de recherche et d'innovation, et en fait de recherche et d'investissement en innovation, il y a un volet qui s'appelle les grands défis de société. On demande à d'autres ministères de réfléchir à quels grands défis doivent être adressés par l'innovation, puis de faire appel au Québec innovant, de faire appel aux technologues, de faire appel aux innovateurs sociaux, aux innovateurs d'impact pour améliorer les choses, proposer des solutions, structurer des choses. Et ça, ben, il y aura aussi l'occasion au ministère de l'Éducation, puis dans l'enseignement, de contribuer à ces efforts-là.
En tout cas, il y a toute sa place, je crois. Ça me fait... C'est comme un hamster qui tourne autour d'une roue, là. Ça me fait tourner, là. Fait que c'est vraiment le fun.
Moi, j'espère que les gens qui nous écoutent, les enseignants, la direction, tout ce qui est le personnel d'appui à l'enseignement, d'appui aux élèves, ben vont trouver un peu comme toi, un hamster en eux, là, qui se met à tourner, puis que la flamme qui était là, qui est là, les gens de ce secteur-là, vous êtes des gens qui veulent contribuer à la société, bâtir les esprits de demain, bâtir l'avenir.
Vraiment.
Fait que ça, c'est une vocation extraordinaire qu'il faut soutenir et c'est une vocation d'innovateur, d'innovatrice également.
On est dans la dernière question de M. GPT qui demande quels sont les principaux défis que vous identifiez actuellement dans le système éducatif québécois et comment pensez-vous que l'innovation pourrait aider à les surmonter?
Ben, on en a parlé beaucoup. Hein. Je pense que je pense que la culture de s'approprier le désir d'améliorer les choses en continu, s'approprier la mesure de la performance pour être capable de continuellement identifier les forces, les faiblesses, les endroits où ça va bien, les endroits où ça va pas bien. Le partage des données, c'est fou, hein? Quand un écosystème où des gens partagent leur performance, on peut apprendre les uns des autres. Comment, mon Dieu, comment t'as fait ça, toi, comment ça se passe chez vous, comment ça se passe chez nous? Ça, c'est un des moyens, on l'a dit à Harvard, comment c'était puissant, mais les communautés de pratique, c'est extrêmement puissant pour apprendre les uns des autres, s'améliorer rapidement, augmenter son impact. Alors ça, ben, je pense que là, il y a un défi de ce côté-là, la capacité d'apprendre les uns les autres. Des événements comme aujourd'hui, ça nous permet de faire ça. Des rencontres, les gens, ils se parlent, les gens échangent, les gens connectent, rencontrent des nouvelles idées. Puis il se passe énormément dans les corridors, à la pause café, où on apprend les uns des autres comment ça se passe chez vous. Ah oui, moi, j'ai fait ça. Puis ah oui, comment ça a été? Ça, c'est important. Et quand on expose les données de performance, les données d'impact, là, on arrive à voir des choses qu'on n'avait jamais soupçonnées. Et c'est une opportunité. On a parlé du besoin de créer des espaces d'expérimentation, des carrés de sable.
Oui.
Ça, c'est un savoir-faire. En fait, tout le savoir-faire de comment on gère une organisation pour qu'elle soit innovante, c'est un savoir-faire qui est inconnu, mais qui est inconnu pour les dirigeants d'entreprise, mais qui est inconnu pour les dirigeants dans nos écoles aussi. Donc, c'est une évolution à avoir.
Je suis content d'entendre parler d'évolution. Moi, j'entends de l'espoir. J'ai hâte de nous revoir dans 10 ans, dans 15 ans, voir ce que l'éducation s'en va. Il y a des belles choses qui se passent, c'est en pleine effervescence. Et je veux prendre un temps au nom de Créativité Québec. J'aimerais dire un grand merci d'être venu nous voir pour l'ouverture du Salon de l'innovation. Merci à vous.
Ben merci beaucoup. Puis bonnes innovations à tout le monde. Lâchez pas, il faut absolument continuer d'allumer les jeunes pour qu'on soit une société plus brillante, plus innovante, puis dont on va être très fiers. Dans 5 ans, espérons, peut-être pas 10 ans, mais continuons la révolution de l'innovation pour l'avenir de la nation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Frédéric.
Merci.
Merci.